France Inter.
Bonjour. Bonjour à tous. À la une ce matin, l'ombre de Salazar pèse sur les élections au Portugal. Le parti d'extrême droite Chega pourrait faire une percée historique aujourd'hui, 50 ans après la révolution des œillets. Le retour du slogan « Dieu, patrie, famille » donne des sueurs froides à ceux qui se sont soulevés contre la dictature militaire. Dans l'actualité également, le début du mois de Ramadan. Demain, toujours pas de trêve en vue à Gaza. Et en France, le ministre de l'Intérieur renforce la sécurité autour des mosquées. Les centrales solaires priaient de ne pas détruire les forêts. Leur taille est limitée à partir d'aujourd'hui. Nous serons en Allemagne, dans la ville natale de Sandra Hüller, l'actrice d'Anatomie d'une chute, nommée aux Oscars ce soir. Et puis le 15 de France à la peine et les Lensois au sommet. Rugby et football au menu du Journal des Sports de Nicolas Perronnet. Avant vos invités, Ali
et
Marion.
Et au lendemain du couronnement de la Tchèque Kristina Pliskova, sacrée Miss Monde la nuit dernière, on parle beauté sur France Inter. Quelle importance, quels critères, quelle évolution.
Quelle histoire de la beauté. C'est quelque chose qu'on abordera avec le grand historien Georges Vigarello, immense historien du corps notamment et du sport, et l'anthropologue Elisabeth Azoulay. Elle est spécialiste également du corps humain et elle dirige 100 000 ans de beauté chez Gallimard. Vos témoignages, vos questions, vos interventions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter.
Journée décisive au Portugal où l'on vote pour renouveler le Parlement. Le scrutin ouvre dans une heure. À trois mois des élections européennes, la percée de l'extrême droite sera particulièrement scrutée. Le parti Chega pourrait doubler son score de 7% lors des dernières élections il y a deux ans et contraindre la coalition de centre-droit à une alliance. Le Portugal fêtera en avril les 50 ans de la chute de la dictature salazariste. Ceux qui ont participé à la révolution des œillets redoute le retour des idées d'extrême droite. C'est un reportage de nos envoyés spéciales à Porto, Johanna Gabric et Julie Pietri.
Il y a 50 ans, le 25 avril 1974, 200 capitaines de l'armée mènent le soulèvement contre le pouvoir salazariste. Castro Carneiro est l'un d'entre eux.
Mon père, très catholique, et ma mère adoraient Salazar. Si le 25 avril a mis fin au fascisme, il n'a pas supprimé les fascistes.
Il y a quelques années, André Ventura, le leader de Chega, a scandé la vieille devise de la dictature.
Deus, patria, familia et travail.
Dieu, famille, patrie, à laquelle il a ajouté le mot travail. Alors l'extrême droite au pouvoir, Castro Carneiro la redoute énormément.
Quand je vais témoigner dans les écoles, je me sens un peu comme un animal qu'on voit au zoo. Les jeunes n'ont pas conscience de ce qu'était la dictature, le fascisme.
Cette conscience, Manuela Matos Monteiro l'a ancrée en elle pendant la dictature. Elle organisait réunions secrètes et tractages.
C'est une peur intériorisée. La mémoire, c'est très important, mais c'est aussi très difficile à transmettre. Parce que c'est seulement quand tu es privé de liberté que tu sais ce qu'est la liberté.
Selon une récente étude, les électeurs les plus séduits par Chega sont aussi les plus nostalgiques de la dictature de Salazar.
Julie Pietri, 11 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, résultat attendu dans la soirée. Un premier navire d'aide alimentaire est prêt à quitter Chypre, direction Gaza. L'Union européenne espère ouvrir aujourd'hui le corridor maritime qui permettra de ravitailler le territoire palestinien. Du côté des négociations pour une éventuelle trêve, on en est toujours au point mort. Les autorités israéliennes accusent le Hamas de vouloir enflammer la région pendant le Ramadan. Enfin, le président des États-Unis, lui, durcit le ton vis-à-vis de son allié israélien. Par sa façon de conduire la guerre à Gaza, Benjamin Netanyahou fait plus de mal que de bien à Israël, dit Joe Biden. On y revient dans le journal de 9h.
8h05, en France, le ministre de l'Intérieur appelle à renforcer la sécurité aux abords des lieux de culte musulmans.
Et pour toute la durée du Ramadan, qui commence demain. Une extrême vigilance liée à la guerre au Moyen-Orient. Il y aura plus de policiers et de gendarmes aux abords des mosquées, aux heures d'entrée et de sortie des fidèles. Même si certains lieux de culte assurent déjà eux-mêmes leur sécurité. À la mosquée de Gennevilliers, en Seine-Saint-Denis, où s'est rendue Mathilde Bouquerel, le dispositif est bien rodé.
Tous les vendredis, une cinquantaine de bénévoles sont mobilisés à la mosquée de Gennevilliers. Mohamed Ben Ali, président d'Ennour, l'association qui gère le lieu de culte.
Donc là, il y aura entre 15 et 20 personnes, parce que c'est la salle principale, c'est là où il y a le plus de monde. La salle à l'étage, c'est une salle qui est réservée aux femmes.
Premier étage.
Et donc, il y aura aussi une quinzaine de personnes.
Seuls certains bénévoles, une dizaine, sont habilités à intervenir directement en cas de problème.
On a une société de sécurité et de formation sur les normes de sécurité, sur l'organisation avec qui on travaille. Pas tous les membres de la sécurité, mais il y a des personnes qui sont formées à maîtriser s'ils constatent qu'il y a des personnes difficiles, qui parlent avec ces personnes, qui les calment et essayent de les sortir doucement jusqu'à l'extérieur.
Le dispositif rassure les près de 4000 fidèles comme Ahmed.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a des caméras partout de toute façon, mais je ne crois pas que, surtout à Gennevilliers, franchement, je considère que Gennevilliers, c'est un prototype de tolérance qui nulle part ailleurs.
Ce dispositif existe depuis 12 ans.
Et le ramadan se terminera avec la fête de l'Aïd el-Fitr autour du 9 avril. La campagne pour les européennes est bel et bien lancée après le premier meeting de la majorité hier à Lille. Marion Maréchal, tête de liste du parti Reconquête, entre aujourd'hui dans la course avec une réunion publique à Paris et puis meeting à Lyon pour le candidat du Parti Socialiste Raphaël Gluckman. Il n'y aura pas de coupe budgétaire dans le plan France 2030, promesse du ministre de l'Industrie Roland Lescure dans la tribune. Ce plan de 54 milliards d'euros lancé il y a 2 ans vise à investir dans l'innovation, notamment pour décarboner l'énergie. Comme par exemple les centrales solaires, source d'électricité verte. Elles ont besoin de beaucoup de place, quitte à défricher des forêts. Désormais, ces champs de panneaux solaires ne pourront plus dépasser une certaine taille. Une mesure, Sandy Dauphin, qui figure dans la loi sur l'accélération des énergies renouvelables.
À partir d'aujourd'hui, les développeurs de centrales solaires en zone forestière ne peuvent plus déposer de demande d'autorisation de défrichement dès lors que le projet dépasse 25 hectares. Une victoire pour l'association de défense de l'environnement, la CEPENSO Aquitaine, son président Daniel Delestre.
Ne pas limiter la surface des défrichements, c'était ouvrir l'ensemble des espaces forestiers à la voracité des investisseurs. Donc c'est pour nous une excellente mesure. Autant on est totalement favorable au développement des énergies renouvelables pour sortir des énergies fossiles, pour essayer de sauver le climat. L'affaiblissement de la biodiversité est un problème au moins aussi important que le climat et il faut protéger les deux.
De son côté, le syndicat des énergies renouvelables qui regroupe les professionnels de la filière dénonce des incohérences, son président Jules Nissen.
On fait avec, mais on a un peu du mal à comprendre pourquoi seuls les projets solaires sont soumis à cette interdiction de faire une demande, alors qu'on pourrait venir avec un projet d'usine, de bâtiment, de logement, de route, n'importe quelle infrastructure. Et on serait toujours en capacité de demander l'autorisation.
Cette semaine en Gironde, les porteurs d'Oriseo, un projet géant de parc solaire sur des parcelles sylvicoles, ont déposé leur demande d'autorisation juste avant la date butoir. Cette centrale photovoltaïque, près de 700 hectares à Sossa, au sud de Bordeaux, pourrait bien être la première et la dernière de sa taille.
10 départements sont en vigilance orange aux pluies, aux crues ou aux vagues submersions ce dimanche. Ça concerne une grande partie du centre-sud-est et 4 départements de la côte atlantique. La plus grande prudence est de mise. Hier soir, dans le Gard, un automobiliste qui voulait franchir un pont a été emporté par les eaux. Il est toujours porté disparu. Raconter son combat contre la maladie en bande dessinée, c'est le pari du dessinateur Jean-Christophe Chosy. Dans 109, il livre le récit de sa lutte contre la myélofibrose. Un témoignage bouleversant, Victor Dolande.
À 56 ans, Jean-Christophe Chosy apprend qu'il est atteint d'une myélofibrose, une maladie du sang très rare. La moelle osseuse ne produit plus de plaquettes. Seule une greffe peut le sauver. Sa sœur cadette sera la donneuse. Il entre à l'hôpital en chambre stérile pour 2 mois. Quand il revient chez lui, la France est confinée et lui doit faire extrêmement attention à ce corps si fragile. Ce corps qui peut l'abandonner à tout moment.
Le corps qui nous a porté toute notre vie, et à vrai dire quand on est en bonne santé, on se pose même pas la question, tout d'un coup, fait défaut, s'abat, s'assèche, et nous conduit droit vers une chose qu'on a du mal à penser. Enfin, moi, penser ma mort, ça a été très très compliqué.
Ce corps qu'il dessine aussi avec précision, ses joues creusées par la maladie, ses cheveux qui tombent, ce visage qu'il ne reconnaît presque plus à mesure qu'il perd du poids, ce livre, c'est aussi une thérapie pour son auteur.
Ce livre, je pense qu'il a eu pour moi une fonction de décharge. On se décharge d'un poids assez lourd, on se décharge d'une tension qui a été extrême pendant de très longs mois, parce que j'ai quand même eu peur de ne plus faire de livres, c'est aussi de ne plus dessiner. Et donc l'une de ces premières manifestations de vie un peu publiques, c'est c'est quand même le fait que ce livre sorte.
Avec la bande dessinée, on peut tout raconter, poursuit Jean-Christophe Chosy, dire aussi le poids pour ses proches, dire enfin la vie qui reprend. Et depuis qu'il va mieux, il envisage justement cette vie comme une deuxième chance.
109 de Jean-Christophe Chosy est paru aux éditions Casterman. Et puis, plus que quelques heures de suspense avant la cérémonie des Oscars à Los Angeles, la nuit prochaine à partir d'1h du matin, heure de Paris. Sur le tapis rouge et dans la salle, il y aura toute l'équipe d'Anatomie d'une chute. Le film de Justine Trier a déjà réussi l'exploit de décrocher 5 nominations, dont celle de Sandra Hüller pour l'Oscar de la meilleure actrice dans le rôle d'une écrivaine accusée d'avoir tué son mari. La comédienne est originaire de la région de Thuringe en Allemagne. Sébastien Baer est allé à Friedrichsroda où l'on n'a pas oublié l'enfant du pays.
Le théâtre de plein air est toujours là, perché sur les hauteurs de la ville, au milieu de la forêt d'épicéas et de bouleaux. C'est ici que Sandra Hüller a fait ses premiers pas sur scène avec la troupe de théâtre de son lycée, aux côtés de son amie Annette Fuchs.
Elle avait beaucoup d'ambition, elle s'investissait énormément. Un jour, elle a joué le rôle d'un homme et pour être réaliste à 100%, elle a travaillé sur la démarche masculine, la façon de s'exprimer, le langage corporel. Pour nous, c'était seulement un hobby, mais elle prenait ça très très au sérieux.
Aujourd'hui, à la retraite, Petra Müller, l'ancienne professeure d'économie de Sandra Hüller, continue à suivre sa carrière.
J'ai vu Anatomie d'une chute avec une amie et nous avons été très très impressionnés. Elle est formidable. Elle joue les personnages comme si c'était sa propre vie. Bien sûr qu'elle mérite un Oscar.
Ce soir-là, dans la salle 7, le cinéma de la grande ville voisine passe Anatomie d'une chute. Le film est à l'affiche depuis novembre.
C'est complet, jusqu'à la dernière place.
Yvonne Mitzenheim, la directrice du cinéma.
Ça s'était un peu calmé, mais maintenant, avec les Oscars, c'est à nouveau plein. Beaucoup ont déjà vu le film 3 ou 4 fois. C'est un grand succès.
Depuis 3 jours, le cinéma diffuse aussi La Zone d'intérêt, où Sandra Hüller incarne l'épouse du camp de concentration d'Auschwitz. Le film est nommé dans 5 catégories aux Oscars, comme Anatomie d'une chute. Friedrich Roda, Sébastien Baer, France Inter.
Sandra Hüller en concurrence pour l'Oscar avec Annette Bening, Lily Gladstone, Carey Mulligan et Emma Stone.
France Inter, 8h12, le journal des sports.
Avec Nicolas Perronnet ce matin. Bonjour Nicolas.
Bonjour Corinne.
Le 15 de France va tenter de se relancer.
Oui, très décevant. Hein. Depuis le début du tournoi des Six Nations, les Bleus sur la pelouse de Cardiff cet après-midi pour affronter le Pays de Galles. Une victoire, un nul et une défaite pour l'instant. Le bilan n'est pas très flatteur pour ce 15 de France et son sélectionneur Fabien Galthié a de plus en plus contesté Fanny Lechevestrier.
Pas capable de faire des miracles, un entraîneur ordinaire, une approche humaine pas à la hauteur. Les spécialistes et anciens joueurs de rugby s'en sont donnés à cœur joie cette semaine pour lâcher leur coup sur Fabien Galthié. Dans la tourmente, le sélectionneur a lui choisi de faire profil bas.
Aujourd'hui, on traverse une période difficile. C'est dur, personne n'est satisfait. Ça ne fait que décupler ma motivation, mon envie de réussir.
Et pour le moment, publiquement, le groupe adhère toujours au discours et à la méthode. À tour de rôle, tous les cadres du 15 de France sont ainsi montés au créneau de Gaël Ficou, le plus capé des Bleus.
Malgré la pression de la presse, la pression de tout le monde, on est à fond derrière lui et il est à fond derrière nous.
À Charles Olivon, le premier capitaine de l'ère Galthié.
Fabien, quand il m'a appelé, c'était en 2019, j'avais joué que 6 ou 7 matchs. En top 14, après mes blessures, la marque de confiance, je m'en rappellerai certainement toute ma vie. On se doit de donner tout pour ce groupe, pour ce staff aussi, et Fabien en fait partie évidemment.
Égal Ficou de conclure.
Moi je suis convaincu que, comme il a dit Fabien, à très court terme, on sera redoutable.
Alors première démonstration attendue dès cet après-midi, car sans vouloir ajouter de la pression en cas de défaite, les Bleus pourraient tout de même se retrouver bon dernier du tournoi. À une semaine de son dénouement.
Un scénario catastrophe, mais une possibilité après les victoires surprises hier de l'Angleterre face à l'Irlande et de l'Italie contre l'Écosse.
C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et en football, les 100 et or sont de retour.
Oui, de retour pour peut-être refaire le coup de l'an dernier, se qualifier en Ligue des Champions. Victoire très importante en tout cas du Racing Club de Lens hier soir qui a réussi là où tous les autres ont échoué depuis 4 mois en Ligue 1, s'imposer face à Brest. La sensation du moment, victoire 1-0 à Bollard qui permet mais donc au Lensois de tutoyer le podium et qui met fin à une impressionnante série de 13 matchs sans défaite pour les Brestois. Touchés mais pas coulés, assure leur capitaine Brendan Chardonnay.
On reste en haut, le contenu reste quand même plutôt bon.
à Bollard devant 38 000 personnes. Il faut s'appuyer là-dessus pour repartir. J'ai pas d'inquiétude, je connais mes gars, je connais mes troupes. Voilà, on se l'est dit dans le vestiaire dès la fin du match. C'est pas un coup d'arrêt, ce qui est arrivé devait arriver. On savait quand même qu'on resterait pas invaincu jusqu'à la fin de la saison. Mais ça prouve qu'on mérite d'être là, qu'on a volé de points à personne. On veut foncer, tête baissée, les gars sont déterminés. Donc on est prêt à repartir dès dimanche prochain.
À Brest qui reste deuxième, un dauphin du PSG qui reçoit Reims à 13h.
Et puis ça s'est terminé il y a à peine une heure à Miami. Nice body shot from Poirier. And now he
lands up top. Voilà, vous avez reconnu hein, la défaite de Benoît Saint-Denis face à l'Américain Dustin Poirier, ou Dustin Poirier, c'est comme on veut. C'était l'événement du week-end en MMA. Le Français, étoile montante de la discipline, s'est incliné KO au deuxième round face à l'une des grandes stars hein, du MMA mondial et devant les yeux de Donald Trump, un habitué des soirées UFC.
Merci Nicolas Perronnet pour ce journal des sports.
Dans le journal de Corinne Audouin, il est 8h15.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Camille Esnault, la perturbation s'évacue progressivement vers l'Italie.
Oui, mais elle laisse derrière elle des averses des Hauts-de-France jusqu'à la région PACA, en passant par l'Île-de-France, le centre-Val de Loire, la Bourgogne, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse. 7 départements sont placés en vigilance orange crue, la Charente-Maritime, l'Ardèche, le Gard, le Var, la Lozère et l'Aveyron. Le vent souffle aussi du massif central à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, un risque d'avalanche hein, toujours présent au sud des Alpes. Sur la moitié ouest, la grisaille se dissipe avec des averses au sud de l'Aquitaine qui vont donner de la neige hein, sur les Pyrénées, accompagnées de vent et d'un risque d'avalanche. Côté température, vous avez ce matin 1 au Puy-en-Velay, 3 à Vannes, 4 à Pau, 6 à Nancy, 7 à Montpellier, 8 à Paris.
Et attention aux grandes marées cet après-midi, pas à Paris. Hein.
Oui, non. Elle place les Landes et les Pyrénées-Atlantiques précisément en vigilance orange. Vague submersion, la perturbation, elle va s'attarder sur les frontières du Nord-Est jusqu'en soirée. À l'arrière, un temps de traîne se généralise avec des averses orageuses plus nombreuses sur le Sud-Ouest et le Sud-Est. Pour les températures, elles iront de 9 à 16 degrés.
Merci Camille Esnault, c'était la météo. 8h17 sur Inter, géopolitique. Mouah.